Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle. Vous renouvellerez la face de la terre. Prions, Dieu, qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous, par ce même Esprit, de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation, par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous en sommes au chapitre 23 de Saint Matthieu, au verset 16, sur le polycopier qui couvre chapitre 21 à 25. De Saint Matthieu à la page 20, en haut de la page. Donc aujourd'hui, je vais sans doute pouvoir, j'espère, terminer sans doute le chapitre 23. Petit à petit, nous arrivons à la fin de cet évangile selon Saint Matthieu. Vous voyez, comme ces explications des pères d'Église prennent énormément de temps, il faudra déjà plus d'un an largement, pour que je fasse simplement l'évangile de Saint Matthieu. Il y a encore trois autres évangiles à expliquer derrière. Il faut mieux aller doucement et que les choses soient bien comprises. En comprenant les évangiles tels que les pères de l'Église les ont compris, on comprend l'évangile tel que l'Église l'a compris. Alors voyons où nous en sommes dans le chapitre 23 de Saint Matthieu, versets 16 à 22. Malheur à vous, guides aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, et si quelqu'un jure par l'or du temple, il doit, insensé et aveugle. Car lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Et si quelqu'un jure par l'autel, ce n'est rien, et si quelqu'un jure par le don qui est sur l'autel, il doit, aveugle. Car lequel est le plus grand, le don ou l'autel qui sanctifie le don? Celui donc qui jure par l'autel, jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Et quiconque jure par le temple et par celui qui y habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu, par celui qui y est assis. Alors, tantôt, Seigneur, ici, se bat contre les hypocrites. Ces guides aveugles, dont il parle, c'est les scribes et les pharisiens, qui étaient des hypocrites, c'est-à-dire qui attachaient sur les épaules des fidèles, des charges énormes, alors que même refusaient de bouger le petit doigt pour placer la moindre charge sur leurs propres épaules. Voilà ce que disent les pères. J'ai tiré ici quelques phrases des pères de l'Église. Les Juifs estiment que l'or et les dons qu'ils reçoivent sont plus saints que le temple, mais ils se préoccupent plus des dons que des prières qui devaient couler du temple. Et ils se contentaient de donner de l'argent, puisqu'ils considéraient que puisqu'ils avaient donné de l'argent, bon, mais ils avaient fait leur devoir d'État, puis après, ils ne s'occupaient plus du reste. Et le bon Dieu, avant de recevoir des dons dans son Église, veut aussi que chacun d'entre nous, nous nous sanctifions par la pratique de notre devoir d'État. Hein, ce n'est pas, encore une fois, forcément parce qu'on fait des gros dons, des œuvres catholiques, par exemple, que ça veut dire qu'on va aller au ciel. C'est pas l'or donné, c'est pas l'argent donné qui fait l'état de grâce. Et j'ai connu des gens comme ça qui faisaient peut-être des gros dons à la messe à laquelle ils allaient le dimanche, mais qui étaient incapables de faire la paix dans leur propre famille et qui parlaient plus à leurs épouses depuis parfois des mois et des mois. Mais ils donnaient des grosses sommes tous les dimanches à la quête. J'aurais préféré qu'ils donnent pas de grosses sommes à la quête le dimanche et qu'ils se réconciliaient avec leurs épouses. L'or en dehors du temple n'est pas sanctifié, pas plus que les prières, aussi admirables soient-elles, sont les divines écritures. Donc la confirmation de la doctrine doit être connue dans les divines écritures. Et l'assistance à la messe, la connaissance des saintes écritures, doit augmenter en nous l'amour du bon Dieu. Si on sort de la sainte messe le dimanche aussi mauvais qu'on y est rentré, à quoi ça sert la messe? Si j'ai le cœur plein de haine en rentrant dans la contre des gens autour de moi, en rentrant dans l'église pour la messe du dimanche, et que je sors après une heure et demie dans la chapelle le dimanche, et j'ai toujours la même haine dans mon cœur, à quoi ça sert que j'aille à la messe? Et le bon Dieu nous demande justement de laisser à la porte de nos chapelles tous nos problèmes. Ne vous inquiétez pas, ils ne vont pas s'envoler. Vous allez les retrouver après la messe. Mais la seule différence, c'est qu'après la messe, vous serez plus fort pour les porter. Donc les pères précisent que l'autel dont parle notre Seigneur Jésus-Christ, verset 18, si quelqu'un jure par l'autel, c'est le cœur humain qui est la chose principale dans l'homme. Toute offrande faite par l'homme doit être sanctifiée par le cœur par lequel l'offrande est faite. Il ne peut y avoir d'offrande plus honorable que le cœur de l'homme, car c'est de lui que les offrandes procèdent. Tout est dans l'intention. Si j'ai une intention viciée, même si les actions extérieures que je fais sont belles en soi, si elles sont faites avec une mauvaise intention, eh bien l'action est viciée par elle-même. Donc quelle est mon intention? Est-ce que j'ai l'intention d'aller au ciel? Est-ce que j'ai l'intention de faire tout ce que le bon Dieu me demande pour que je puisse sauver mon âme et aller au ciel? Voilà ce que le bon Dieu veut savoir. Donc attention à purifier nos intentions. Je crois que c'est important en début de journée, pendant la prière du matin, de purifier notre intention. Mon Dieu, je vous offre tout ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai l'intention de le faire pour vous. Aidez-moi à ne pas oublier que je travaille pour vous. Je suis votre serviteur. Si la conscience est claire, le chrétien a confiance en Dieu, non pas à cause du don, mais parce qu'il a une conscience pure. Nous demandons cette pureté d'intention qui est tellement importante dans les rapports entre les gens. Le péché est d'abord de l'intention. Si mon intention est viciée, tout est vicié. Saint Augustin explique mystiquement, le temple et l'autel sont le Christ. L'or et les offrandes sont les louanges et les sacrifices qui sont offerts à Dieu et par lui. L'autel, dit Origène, est le cœur. Les offrandes, les prières et le jeûne que le cœur sanctifie. Donc, je peux faire des jeûnes extraordinaires, je peux faire des dons extraordinaires, des aumônes extraordinaires, mais si je le fais avec une intention qui est fausse, une intention qui est une intention orgueilleuse, parce que le monde me regarde, eh bien mes jeûnes, mes prières, mes aumônes ne valent plus rien. Donc purifions régulièrement nos intentions. Encore, on commence à prier, on commence à faire pénitence, on fait une action qui en soit bonne. Et parfois, le démon de l'orgueil s'en mêle et vient nous susurrer à l'oreille des pensées orgueilleuses. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'il faut à ce moment-là arrêter notre action et tout de suite se tourner vers le bon Dieu en disant « Voilà mon Dieu, je vous offre ça. C'est pour vous que je travaille. » Quand on nous félicite parce qu'on a fait quelque chose de bien, aussi se remettre devant le bon Dieu et offrir ses félicitations au bon Dieu, celui qui est le patron. Versets 23 à 24, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. » Il reprend le même terme. Quand il parlait de guides aveugles, les guides aveugles et les hypocrites, c'est les mêmes personnes. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui payez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, et qui avez abandonné ce qu'il y a de plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Il fallait faire ceci, ne pas omettre cela. Yez l'aveugle qui filtrait le moucheron et qui avalait le chameau. » Notre Seigneur ici attaque donc de nouveau les hypocrites, ceux qui font les choses pour être vus par le monde, par l'extérieur, et dont l'intention n'est pas pure. C'est d'eux dont il parle. Et notre Seigneur a cette phrase très forte. Vous, guides aveugles, qui filtrez le moucheron et qui avalez le chemin, et avalez le chameau. Que ça veut dire les guides aveugles? Celui qui est en charge des autres. C'est chef de cordée qui, au lieu de diriger les gens dans la cordée par le bon chemin qui mène au sommet, eh bien, mène la cordée tout entière dans le précipice, vers le précipice. L'aveuglement, c'est ça. L'aveuglement, c'est ceux qui ne veulent pas voir la réalité en face. Par ces mots, Saint Rémy nous déclare, le Seigneur montre que tous les commandements de la loi, du plus grand au plus petit, doivent être remplis. Les offrandes et les aumônes ne valent rien si on ne garde pas soigneusement, si on se garde pas soigneusement du péché. C'est ce que j'expliquais juste avant. L'intention fait tout. Si j'ai une intention pécamineuse, tout ce que je fais ne vaut plus rien. Et donc, les offrandes et les aumônes ne valent rien si je ne me garde pas en état de charité. Rappelez-vous le texte de saint Paul, magnifique, que vous connaissez bien. 1 Corinthiens, chapitre 13. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Je relis ce texte. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, que je connaîtrai tous les mystères, que je posséderai toute science, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, tout cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est bonne. La charité n'est pas envieuse, la charité n'est point inconsidérée. Elle ne s'enflamme point d'orgueil, elle ne fait rien d'inconvenant. Elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne tient pas compte du mal. Elle ne prend pas plaisir à l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Maintenant, dit-il plus loin, nous voyons un miroir, d'une manière obscure. Mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. Maintenant ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité. Et la plus grande des trois, c'est la charité. Charité, rappelez-vous, c'est l'état de grâce. Donc je peux faire des tas de choses extraordinaires si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'état de grâce, tout ce que je fais ne vaut rien. Tous mes mérites disparaissent si je ne suis pas en état de grâce. J'ai connu des gens comme ça, c'était terrible, des gens qui faisaient peut-être des grandes choses. Saint Paul va, n'oubliez pas, dire même si je donne mon corps pour être brûlé pour les autres, c'est énorme. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Donc même si je fais des actions héroïques pour aider les autres, si je ne suis pas en état de grâce, je ne vaux rien. Nous connaissons tous des gens comme ça, qui font des tas de choses peut-être extraordinaires pour les autres, mais qui malheureusement vivent dans le péché complet, parce que pour une raison ou pour une autre, ils se moquent du bon Dieu d'une autre façon, ils vivent par exemple en concubinage tranquillement, et bien toutes leurs bonnes actions ne valent rien devant Dieu, parce que justement ils manquent l'essentiel, ils manquent la bonne intention. Si je fais des actions extraordinaires, même si je prétends les faire pour le bon Dieu, mais que je vis en concubinage par exemple, et bien en fait je n'ai pas l'intention pure. Et sans une pureté d'intention, bien, tout ce que je fais ne vaut plus rien. D'autres explications des pères. Le moucheron pique alors qu'il bourdonne. Le chameau baisse son dos pour recevoir sa charge. Donc les juifs filtrent le moucheron quand ils demandent la libération du voleur séditieux Barabbas. Ils avalent le chameau quand ils demandent la mort de celui qui a volontairement pris sur lui le fardeau de notre mortalité. Qu'ils aveuglent, qu'ils filtraient le moucheron et avalaient le chameau. Est-ce que moi aussi, de temps en temps, je ne fais pas la même chose? Je filtre le moucheron, mais j'avale le chameau. Donc, le chameau, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Le moucheron, c'est Barabbas. Qu'est-ce que Barabbas par rapport à notre Seigneur? C'est un petit moucheron par rapport à un chameau. Saint Grégoire dit la même chose. Il comprend sous le mot de moucheron la figure de Barabbas. Et par le chameau, il désigne le Christ. Donc, est-ce que moi aussi, parfois, je ne choisis pas justement de rejeter le chameau pour choisir le moucheron? À chaque fois, je garde l'esprit du monde dans mon cœur, je choisis le moucheron et j'avale le chameau. Page 21 sur le polycopier. La tradition est le rempart de la loi, le vœu est le rempart de l'abstinence, le silence de la sagesse. Vous prenez un grand soin des bagatelles, un grand soin des bagatelles comme la dîme des herbes, de peur que quelqu'un ne fraude contre vous au plus petit degré, mais vous commettez au même moment toute forme d'injustice, de malice et d'autres malversations aussi grosses que les chameaux que vous avalez. Cette hypocrisie est très fréquente aujourd'hui, mes bien chers frères. J'espère pas trop de chez nos fidèles, quoique parfois je me pose des questions. Et je dirais même plus, aujourd'hui, souvent, les gens n'ont même plus peur de cette hypocrisie.
les mêmes personnes qui, en général, on voit très bien en matière politique, ces mêmes personnes, ces écologistes de gauche là, qui sont tous pour la protection des bébés phoques, pour la protection des forêts, pour la protection de toutes les choses matérielles et naturelles, au moins dans certaines mesures. Donc ils sont pour la protection des phoques, pour la protection des baleines, pour la protection des arbres, des fleurs. Et bien, j'ai remarqué que tous ces gens, tous ces écologistes de gauche qui se battent et militent pour ces choses-là, sont tous, sans aucune exception, en faveur de l'avortement. Alors ça sert à quoi de vouloir sauver les baleines, sauver les phoques, sauver les petites fleurs, si on assassine les enfants dans le sein de leur mère? Mais c'est là où on voit ce que cette hypocrisie dont parle notre Seigneur Jésus-Christ, quelque chose tout à fait d'actualité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Et là, il y a encore une phrase des pères, bien forte. On rencontre même parmi les chrétiens, disent-ils, qui récitent le chapelet scrupuleusement. Ils jeûnent en l'honneur de la Sainte Vierge et en même temps se rendent coupables de péchés de luxure, de rapine et de vol. En faisant notre examen de conscience, est-ce que moi aussi je ne suis pas un petit peu comme ça? Même d'autres exemples, toutes ces personnes par exemple qui sont pour sauver la Terre, sauver la planète, et il faut faire diminuer les températures, sinon les mers vont tout déborder de partout, tous nous recouvrir. Ils sont très inquiets de toutes ces choses matérielles. Je dirais en soi, c'est pas un péché. Je trouve ça un peu bébête, mais c'est pas un péché. Seulement tous ces gens qui se passionnent pour ces choses purement matérielles, qui sont quand même relativement secondaires, seulement qui ont perdu de leur âme. Et je leur dis, mais bonsoir, si vous occupiez de votre âme, si vous passiez pour votre âme le centième du temps que vous passez pour protéger les choses corporelles, mais vous seriez tous des saints depuis longtemps. Donc, posons-nous la question, si cette phrase, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, est-ce qu'elle ne s'adresse pas aussi un peu à moi? Dans quelle mesure? Et notre Seigneur répète, il va répéter plusieurs fois les mêmes choses. Malheur à vous, guides aveugles. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, verset 25. Parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au dedans vous êtes plein de rapines et d'impuretés. Pharisiens aveugles, nettoyez d'abord le dedans de la coupe et du plat, afin que le dehors devienne pur aussi. L'âme est plus importante que le corps. C'est bien joli de vouloir s'occuper du salut de son corps, d'avoir un corps en bonne santé, très bien, mais à condition de ne pas oublier que si mon corps est en bonne santé, mais que mon âme vit dans la corruption, la pourriture la plus complète, quoi ça sert d'avoir un corps en bonne santé? Et les pères expliquent que l'extérieur de cette coupe et du plat désigne le corps. L'intérieur du plat, c'est l'âme. Donc de même que le corps est plus important, que l'âme est plus importante que le corps, parce que l'âme c'est la forme du corps, de la même façon, il ne faut pas trop se préoccuper de la saleté à l'extérieur du plat. Ce qui est important, c'est que l'intérieur du plat soit propre. Et si je ne m'occupe que de l'extérieur de la coupe, la propreté de l'extérieur de la coupe semble occuper également de la propreté de l'intérieur de la coupe, moi aussi, je suis un hypocrite, un scribe et un pharisien. Tout discours qui nous abreuve spirituellement et toute parole qui nous nourrit sont ces plats utilisés pour la nourriture et la boisson. Mais ceux qui se préoccupent de l'apparence extérieure du discours sans se préoccuper de son contenu sont les coupes qui ne sont nettoyées qu'au dehors mais qui sont pleines de vanité à l'intérieur. L'extérieur est beau et l'intérieur c'est tout pourri. Le corps est beau et l'âme est toute pourrie. Alors encore une fois, mettons-nous devant la glace que nous présente le bon Dieu. Et si mon corps semble en beauté, en bonne santé, est-ce que mon âme est aussi belle et en bonne santé? Est-ce que je ne me préoccupe pas, moi aussi, beaucoup trop de l'extérieur, sans m'occuper de l'intérieur? Combien de parents j'ai vu autour de moi, surtout quand j'étais dans la fraternité Saint-Pélis, c'était affolant. Et des parents qui se préoccupent absolument que leurs enfants travaillent très dur à l'école pour faire une bonne école, une grande école, aller à l'université. Ils se préoccupent absolument que leurs enfants puissent avoir une belle place dans le soleil du monde moderne. Ah ça, ils s'en préoccupent. J'ai eu des parents se faire un sang d'encre pour que leur enfant passe son bac, passe les diplômes nécessaires. Puis quand je parle un peu avec ces mêmes parents qui se prétendent catholiques, je leur dis, mais votre enfant, votre fille là qui a 20 ans, votre garçon qui a 20 ans, qui est à la porte de l'université, oui, il se confesse régulièrement? Elle se confesse régulièrement? La réponse fut toujours la même, pratiquement. Oh, monsieur l'abbé, c'est pas mon problème. Comment c'est pas votre problème? Vous préoccupez des choses matérielles, vous vous préoccupez que vos enfants aient une place au soleil dans le monde moderne, et vous ne vous préoccupez pas de l'âme de vos enfants. Quelle est la couleur de l'âme de vos enfants? Vous êtes responsable de cette âme, au moins en partie. Et c'est ça l'hypocrisie dont parle notre Seigneur. Alors, faisons un petit peu notre examen de conscience de ce côté-là, mes bien chers frères, parce que cette hypocrisie est malheureusement extrêmement fréquente. Beaucoup de parents pensent avoir rempli leur devoir d'État par rapport à leurs enfants du moment qu'ils leur ont apporté à manger, qu'ils ont un toit au-dessus de leur tête et qu'ils se préparent à avoir une bonne situation dans le monde d'aujourd'hui. Mais ils ne se préoccupent pas de l'âme de leurs enfants. Il faudrait avoir, mes bien chers frères, ce qu'on appelle le don de la sainte inquiétude. Ce don de la sainte inquiétude qui est un don que devraient avoir tous ceux qui ont charge d'âme. Être inquiet de l'état de l'âme de ceux dont j'ai la charge. Évidemment, vous commencez peut-être par être inquiet de l'état de mon âme, en tant que celui qui est en charge. Mais quel est l'état de l'âme dont j'ai, de ceux dont j'ai la charge? S'ils ne sont pas en état de grâce, qu'est-ce que j'ai à faire pour changer ça? Une bonne mère de famille, un bon père de famille devrait se poser la question tous les soirs, est-ce que mes enfants sont en état de grâce aujourd'hui? Alors, quand c'est des bébés dans le berceau, il n'y a pas de problème. S'ils sont baptisés, ils sont en état de grâce, ceux-là. Vous pouvez faire l'adoration de Saint-Sacrement devant eux, presque. Mes adolescents, les jeunes adultes, est-ce qu'ils sont en état de grâce? Est-ce que pour eux, le bon Dieu est au centre de tout? Vous, les pharisiens, disent les pères, vous lavez et nettoyez avec méticulosité vos mains, vos corps, les coupes, les plats, les verres que nous utilisons pour manger et pour boire, mais vous remplissez votre conscience avec l'impureté, de la rapine, de toutes sortes de malices. Alors que vous devriez vous préoccuper d'abord de la pureté de votre conscience, qui est la seule chose qui nous rend purs devant Dieu, comme c'est d'elle que découlent tous les flots d'impureté en action. C'est la conscience qui est la source de la bonté ou de la malice des actions. Si la conscience est pure, toutes les choses seront également pures. Vous voyez comme on voit toute la différence entre la véritable liberté de conscience dont parlent ici les pères et la fausse liberté de conscience qui a envahi tout notre espace de vie aujourd'hui. Cette liberté de conscience moderne qui consiste à dire que j'ai le droit de penser, de faire ce que je veux. Rappelez-vous la grande condamnation du pape Pie IX concernant cette liberté de conscience. Je voudrais vous rappeler quelques phrases de cette magnifique encyclique, certainement le texte le plus important du magistère de l'Église des deux derniers siècles, nous disait Mgr Lefebvre. Quanta cura, du 8 décembre 1864. Je vais simplement vous citer quelques passages de cette magnifique encyclique. Nous nous sommes, dit le pape Pie IX, constamment opposés avec fermeté aux machinations criminelles d'hommes iniques qui projettent l'écume de leur désordre comme les vagues du mer en furie en promettant la liberté, eux qui sont les esclaves de la corruption. Ils veulent ébranler les fondements de la religion catholique et de la société civile par leurs fausses opinions et leurs plus pernicieux écrits. Faire disparaître toute trace de vertu et de justice, corrompre les âmes et les esprits, détourner des justes principes de la morale ceux qui ne sont pas sur leur garde, en particulier la jeunesse inexpérimentée, la dépraver pitoyablement, l'entraîner dans les pièges de l'erreur et enfin l'arracher du sein de l'Église catholique. Voilà le sens de tous leurs efforts. Ces opinions s'opposent essentiellement non seulement à l'Église catholique, à sa doctrine de salut et à ses droits vénérables, mais encore à l'éternelle loi naturelle gravée par Dieu dans tous les cœurs et à la droite raison. Il s'en trouve beaucoup aujourd'hui, mes bien chers frères, pour appliquer à la société civile le principe impie et absurde du naturalisme, comme il l'appelle, et pour oser enseigner que le meilleur régime politique et le progrès de la vie civile exigent absolument que la société humaine soit constituée et gouvernée sans plus tenir compte de la religion que si elle n'existait pas, ou du moins sans faire aucune différence entre la vraie et les fausses religions. Ils affirment sans hésitation que la meilleure condition de la société est celle où on ne reconnaît pas au pouvoir le devoir de réprimer par des peines légales les violations de la loi catholique, si ce n'est dans la mesure où la tranquillité publique le demande. On a l'impression d'entendre Bergoglio ou Macron. À partir de cette idée tout à fait fausse du gouvernement des sociétés, dit le pape Pie IX, ils ne craignent pas de soutenir cette opinion erronée, funeste au maximum pour l'Église catholique et le salut des âmes, que notre prédécesseur Grégoire XVI, d'heureuse mémoire, qualifiait de délire. Voilà cette opinion fausse. La liberté de conscience et des cultes est un droit propre à chaque homme. Ce droit doit être proclamé et garanti par la loi dans toute société bien organisée. Les citoyens ont droit à l'entière liberté de manifester hautement et publiquement leurs opinions, quelles qu'elles soient, par les moyens de la parole, de l'imprimé ou toute autre méthode, sans que l'autorité civile ou ni ecclésiastique puisse lui imposer une limite. Or, dit le pape, en donnant pour certitude des opinions hasardeuses, ils ne pensent ni se rendent compte qu'ils prêchent une liberté de perdition. Liberté de perdition. Liberté de conscience égale liberté de perdition. Le jour où nous serons jugés, mes bien chers frères, nous ne serons pas jugés selon la conscience, notre conscience à nous, mais selon la conscience du bon Dieu. Alors attention à cette fausse liberté de conscience. Fausse liberté de conscience. Et le pape Pie IX finit son encyclique en disant « Toutes et chacune des opinions déréglées, des doctrines rappelées en détail dans ces lettres, nous les réprouvons, nous les proscrivons, nous les condamnons de notre autorité apostolique et nous voulons et ordonnons que tous les fils de l'Église catholique les tiennent absolument pour réprouver, proscrites et condamnées. » Ces textes, évidemment, sont couverts par l'infaillibilité pontificale. La suite de ce texte, il y a un autre texte encore plus beau peut-être, c'est le syllabus. Donc 1864, relisez mes bien chers frères, relisez ces textes pour vous en imprégner et vous verrez par vous-même que l'Église catholique continue de prêcher ces choses-là contre évidemment l'enseignement de l'Église de Vatican II. L'Église de Vatican II enseigne le contraire de tout ce que l'Église catholique a toujours enseigné sur ce sujet. Rappelez-vous ce texte des Pères, c'est la conscience qui est la source de bonté ou de la malice des actions. Mais il faut que notre conscience soit dirigée vers Dieu. Si ma conscience s'éloigne de la loi naturelle, ma conscience ne vaut plus rien. Versets 27 à 28 du chapitre 23. Malheur à vous. Notre Seigneur continue, oui, il en a des phrases fortes contre ces hypocrites. Malheur à vous, il répète, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous êtes semblables à des sépulcres blanchis, qui au dehors paraissaient beaux aux hommes, mais qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et toutes sortes de pourritures. Vous de même, en dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Notre Seigneur Jésus-Christ parle aux autorités politiques et religieuses de son temps. Et il les traite de sépulcres blanchis. Le doux notre Seigneur. Moi, j'ai jamais osé traiter mes propres fidèles de sépulcres blanchis. J'étais parfois tenté pour certains d'entre eux. Et je ne l'ai jamais fait. Notre Seigneur Jésus-Christ le fait. Parce qu'il est Dieu. Et qu'il a le droit de dire ça. Et qu'il a le devoir de le dire. Les corps des justes sont des temples. Parce que l'âme en est la maîtresse, comme Dieu dans son temple. Dieu lui-même habite dans le corps des justes. Notre âme est le temple de notre Seigneur Jésus-Christ. Un temple saint, sanctifié par le baptême. Sanctifié et consacré par la grâce du baptême. Reconsacré une fois de plus par le sacrement de confirmation, si je l'ai reçu. Mais les corps des pécheurs sont appelés des sépulcres blanchis. Donc si on parle des justes, il parle des temples. la gloire du temple, la beauté du temple. Mais les corps des pécheurs sont comparés au sépulcre blanchi, parce que l'âme du pécheur est morte dans son corps, car celui qui ne fait aucun acte spirituel ne peut prétendre être vivant. Est-ce que je suis spirituellement mort ou spirituellement vivant? Voilà la question qu'il faut se poser. Nombreux sont de nos jours ceux qui vivent comme des pharisiens, qui prennent le plus grand soin d'orner l'extérieur de propreté matérielle, mais dont les âmes n'ont aucun ornement. Ils remplissent leurs âmes avec des vers et des ordures à l'odeur pestilentielle et des pensées absurdes et mauvaises de luxure. Encore une fois, faisons, mes bien chers frères, prenons pour nous ces paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Si notre Seigneur Jésus-Christ a dit ces choses-là, si Saint Matthieu, inspiré par le Saint-Esprit, a été suscité par Dieu pour rappeler ces paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, si notre Seigneur Jésus-Christ appelle tous ces hypocrites des aveugles qui conduisent des aveugles, ensemble ils tombent dans la fosse, il nous faut relire ces textes, mes bien chers frères, et les appliquer à chacun d'entre nous. Est-ce que moi aussi je ne suis pas un sépulcre blanchi qui paraisse beau à l'extérieurement aux hommes, mais qui en dedans est plein d'ossements de mort et de toutes sortes de pourritures? Est-ce que j'ai la pourriture du péché dans mon âme? Et si mon âme n'a peut-être plus de pourriture, mais sent encore la pourriture à plein nez, qu'est-ce que je dois faire? Je dois la nettoyer. Et comment nettoie-t-on une âme qui sent la pourriture? On nettoie une âme qui sent la pourriture d'abord par le sacrement de pénitence et ensuite par la Sainte Eucharistie. Quelle joie pour nous, prêtres, bien chers frères, de pouvoir donner la communion à des âmes qui sont bien préparées. Les deux dernières retraites que j'ai faites, j'ai eu plusieurs premières communions d'adultes, c'était magnifique. Les dernières retraites, j'ai eu un homme de 68 ans qui a fait sa première communion pendant la retraite. Dernière retraite, il y a 15 jours, une semaine, eh bien, j'ai eu une personne qui avait la quarantaine qui a fait sa première communion pendant la retraite, Deo gratias. Remercions le bon Dieu. Autant on ne peut que pleurer de voir la multiplication des communions sacrilèges, autant on peut se réjouir de voir des bonnes communions. Rappelez-vous les textes très forts de Saint Paul, 1 aux Corinthiens. Si je mange et bois sans discernement le corps et le sang du Seigneur, je bois et mange ma propre condamnation. Page 22, c'est le polycopier. Versets 29 à 31. Malheur à vous. Il recommence. Une fois de plus. En tout, il va le dire peut-être 4 ou 5 fois. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui bâtissez des tombeaux aux prophètes et qui ornez les monuments des justes et qui dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Par là, vous témoignez contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Le Christ donc met à nu l'habitude naturelle de tous les hommes mauvais. Chacun surprend la faute des autres, mais jamais les siennes. Chacun a un jugement de cœur sans préjudice sur le prochain, mais son jugement est tordu pour ce qui le concerne. Celui qui au contraire est vraiment juste et sage est celui qui porte un véritable jugement sur soi-même, sur lui-même. Avoir la connaissance de soi-même. Voir son âme telle qu'elle est devant Dieu, non pas telle que je la vois. C'est là tout l'effet du don de sagesse. Le don de sagesse, nous sommes en période d'après la Pentecôte, juste au moment de la Pentecôte, le don de sagesse, c'est le don justement qui va nous aider à comprendre où sont les choses importantes. Qu'est-ce qui est important dans ma vie? Mais ces choses importantes dans ma vie, c'est le salut de mon âme. C'est ça le plus important. Encore une fois, n'oublions pas qu'un jour nous serons jugés, le jour de notre mort, le jour de la séparation entre notre corps et notre âme, nous serons jugés par le bon Dieu. À ce moment-là, le bon Dieu jugera la véritable personne, non pas ce qu'elle apparaît, non pas ce qu'elle a prétendu être dans sa vie ici-bas. On verra l'âme telle qu'elle est devant Dieu. Dans les écrits prophétiques, disent les pères, le sens historique représente le corps, le sens spirituel, l'âme. Les tombeaux sont la lettre et les livres de l'écriture. Et ceux qui ne s'occupent que du sens historique honorent le corps des prophètes, mais ne s'attachent qu'à la lettre comme à un tombeau. On les appelle pharisiens, c'est-à-dire qu'ils séparent les âmes des prophètes de leur corps. Même si les actions des scribes étaient par elles-mêmes saintes et religieuses, cependant elles étaient vicieuses et mauvaises. Justement, pourquoi? Parce que il y avait cette hypocrisie. C'est pour ça qu'à chaque fois que, ici, dans ce passage des évangiles, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ parle des scribes et des pharisiens, il rajoute l'adjectif hypocrite. Scribes et pharisiens hypocrites. Il le dit en plusieurs endroits. Il le dit au verset 23, il va le redire au verset 29. Il le redit au verset 25, au verset 27. Scribes et pharisiens hypocrites. Et si notre Seigneur Jésus-Christ insiste tant sur ces détails-là, qui n'en sont pas d'ailleurs, c'est parce que justement il sait que nous avons une tendance à cette hypocrisie, nous aussi. Donc, notre Seigneur s'attaque à ces actions qui apparaissent extérieurement comme saintes et religieuses, mais qui cependant sont vicieuses et mauvaises. Saint Jean Chrysostome donne plusieurs raisons. Voilà ce qu'il explique. Le Christ ne blâme pas le travail, mais l'intention. Ils agissaient, ces scribes et ces pharisiens, pour la pompe extérieure. Mais à quoi peuvent bien leur être utiles ces louanges fausses s'ils doivent être un jour tourmentés pour toujours en enfer? Les scribes honoraient ceux qui méprisaient la justice, mais les saints ne peuvent être les amis de ceux pour lesquels Dieu est un ennemi. Comme cette phrase est importante, les saints ne peuvent être les amis de ceux pour lesquels Dieu est un ennemi. Pouvons-nous avoir pour amis des gens pour lesquels Dieu est l'ennemi à abattre? Pouvons-nous voter aujourd'hui pour des gens qui se présentent à nos suffrages pour lesquels Dieu est l'ennemi à abattre? C'est plus important, vous le croyez. Est-ce qu'il n'y a pas péché de voter pour quelqu'un pour lesquels Dieu est l'ennemi? Et pour tous ces gens qui se présentent à nos suffrages, pratiquement tous, pour ne pas dire tous, Dieu est pour eux l'ennemi. La loi naturelle est l'ennemi. C'est pour cela qu'ils se disent tous républicains laïcs. Est-ce qu'on a le droit de voter pour un républicain laïc? Qu'est-ce que ça veut dire laïc? Laïc, ça veut dire que Dieu est mon ennemi personnel. Voilà ce que ça veut dire un laïc. Un laïc, c'est ça. Un républicain laïc, c'est un républicain qui prétend que Dieu est son ennemi personnel. Donc, le laïcisme de la République française exclut diamétralement le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que j'ai le droit de voter pour quelqu'un qui refuse le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, qui refuse la loi naturelle? On commence par poser des questions qu'il faut savoir poser à ces gens-là. Est-ce que vous êtes pour l'indissolubilité du mariage? Est-ce que vous êtes pour le contrôle des enfants par les parents? Est-ce que vous rejetez l'avortement? Est-ce que vous rejetez toutes ces abominations sexuelles qui sont prêchées partout dans le monde moderne? Ça, j'insiste sur cette belle phrase des saints. Les saints ne peuvent être les amis de ceux pour lesquels Dieu est un ennemi. Les martyrs ne prennent aucun plaisir d'être honorés avec l'argent qui a causé les pleurs des pauvres, car l'esprit, les scribes extorquaient l'argent des pauvres pour pouvoir bâtir de magnifiques tombeaux aux prophètes, mais c'était pour leur propre gloire. Le Christ blâme les scribes qui construisaient des tombeaux pour les prophètes, parce que dans le même temps, ils méditaient la mort d'autres et de plus grands prophètes, tels que le Christ lui-même et ses disciples. Pour une fois, ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui iront dans le royaume des cieux, mais ceux qui écoutent la loi du bon Dieu et qui la mettent en pratique. Est-ce que j'écoute la loi du bon Dieu? Est-ce que je la mets en pratique? Est-ce que je vis en état de grâce? De quand date ma dernière bonne confession? Continuons. Saint Matthieu, chapitre 23, versets 32 à 36. Notre Seigneur continue d'attaquer, et verbalement avec une force incroyable. Comblez donc aussi la mesure de vos pères, serpents, race de vipères. Non seulement il traite les scribes et les pharisiens, les autorités religieuses de son temps, de sépulcres blanchis, mais maintenant de serpent, de race de vipère. Comment échapperez-vous au jugement de la géhenne? C'est pourquoi voici que je vous envoie des prophètes et des sages et des scribes, et vous tuerez et crucifierez les uns, et vous flagellerez les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent qui a été répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. En vérité, je vous le dis, toutes ces choses retomberont sur cette génération. Cette génération sera justement coupée à la racine. L'arbre sera coupé à la racine parce que vous avez refusé le Fils de Dieu. Et quand le Messie est arrivé, alors qu'il avait été annoncé par toutes les prophéties, qu'il a prouvé sa divinité par tous les miracles, au lieu de le reconnaître, vous l'avez crucifié. Voilà ce que dit notre Seigneur. C'est des termes très forts. Encore une fois, j'ai jamais traité un fidèle de serpent, de race de vipère. Notre Seigneur Jésus-Christ le fait. Le doux notre Seigneur Jésus-Christ. Et les pères expliquent que si le Christ les appelle race de vipère, c'est parce que les jeunes embryons, petits vipéraux, font éclater le sein de leur mère pour pouvoir en sortir. Donc ils tuent leur mère à leur naissance, d'après les anciens. Les juifs condamnaient leur père, trouvant des fautes dans leurs œuvres. Ainsi, les scribes de la loi flagellent de leur langue les scribes du Nouveau Testament, en les maudissant dans leur synagogue. Et les hérétiques, qui sont les pharisiens spirituels, assassinent les chrétiens avec leur langue, les persécutent de ville en ville, parfois dans leur corps, parfois dans leur esprit, cherchant à leur faire quitter leur propre cité de la loi, les prophètes et l'évangile pour un autre évangile. Donc, on peut vraiment dire, mes bien chers frères, que les pharisiens, les chefs de l'église de Vatican II, Bergoglio, tous ces petits copains, sont ces pharisiens, ces scribes spirituels, qui au lieu de sauver les âmes et d'aider les âmes à monter vers le bon Dieu, enfoncent les âmes dans le péché, poussent les âmes à vivre dans le péché. C'est terrible, mais c'est ce qui se passe dans l'église de Vatican II. Ils aident les âmes à se sauver, ils poussent les âmes à se damner, tout simplement. Ils appuient sur la tête des gens pour qu'ils coulent encore un peu plus vite. Avec des bons mots, avec des grands sourires. Il faut aimer les gens. Il faut être plein d'amour. Il faut être plein d'amour envers des gens qui vivent dans le péché mortel jusqu'au cou. Il faut aider ces gens à sortir du péché. C'est ça, pour moi, le crime de l'Église de Vatican II. C'est que l'Église de Vatican II ne cherche plus à faire sortir les âmes du péché, et pour être sûr qu'elles restent dans le péché, elles leur font croire que le péché n'existe plus. On a couvert le péché de crème au chocolat, comme disait le père Calmel, pour tromper les gens. Passons à la page 23. Sur le polycopier, la règle des Écritures ne connaît que deux générations, les bons et les mauvais. De la génération des bons, il est dit, la postérité des hommes droits sera bénie, mais la génération des mauvais est appelée ici race de vipère. Rappelez-vous le proto-évangile, livre de la Genèse. Je mettrai une inimitié entre ta descendance et sa descendance, entre tes enfants et les enfants de la femme, avec un grand F. Cette femme, c'est la très sainte Vierge Marie. Tu chercheras à la mordre au talon, elle t'écrasera la tête. Alors, posons-nous cette question encore une fois, mes bien chers frères. Est-ce que j'appartiens à cette race de vipères, ou est-ce que j'appartiens au contraire à ceux qui sont bénis de Dieu? Ici, il y a une note très importante des pères, en haut de la page 23 sur le polycopier, à propos des versets 35 et 36. Je vous le rappelle, ton Seigneur fait allusion à ce sang innocent répandu sur la terre depuis le sang d'Abel le juste. En vérité, je vous le dis, toutes ces choses retomberont sur cette génération. Voilà ce que disent les théologiens, les pères. Les théologiens enseignent que Dieu a décrété pour les royaumes, les états, les individus, une certaine quantité de péchés avant qu'ils ne les punissent complètement et parfaitement. Mais quand le nombre a été atteint, il les punit alors totalement. Ainsi, le Christ a supporté sa propre mort et celle des apôtres avant que Jérusalem ne fût détruite. Cette phrase doit sérieusement nous faire réfléchir. Dieu, pour chacun d'entre nous, a mis une barre. Et la barre est à différentes hauteurs selon les âmes. Et une fois que la barre est atteinte, c'est la fin. Ce jour-là, le jugement arrive. Le bon Dieu a décrété, donc, pour chaque homme, un certain nombre de péchés mortels qu'il va leur pardonner. Et cette barre a été placée à un niveau différent pour chaque âme, parce que chaque âme est différente. Pour certains, le bon Dieu a décidé de pardonner 25 000 péchés mortels. Pour d'autres, il a décidé de pardonner 250 000 péchés mortels. Et pour d'autres personnes encore, peut-être que le bon Dieu a décidé de pardonner que 10 péchés mortels. On va pouvoir dire, mais c'est injuste parce que tout le monde est égaux. Non, tout le monde n'est pas égaux, justement. C'est une preuve de plus que cette égalité dont on nous rabâche les oreilles à longueur de journée est une gigantesque bouillie pour chat. C'est du n'importe quoi. Il n'y a pas d'égalité, justement. Et c'est la même chose pour les pays, d'ailleurs. Un pays comme la France qui a apostasié, un pays comme la France qui est devenu un pays laïque, qui a rejeté notre Seigneur Jésus-Christ, sera puni, ici-bas. Parce que le bon Dieu ne punit pas les pays en enfer. C'est pas les pays qui vont en enfer, c'est les âmes. Et donc, soyons pas surpris, mes bien chers frères, si nous payons aujourd'hui nos lâchetés personnelles, nos hypocrisies personnelles, regardez ce qu'est devenu la France. Une gigantesque poubelle. Sapidis qui disait que toute la force du démon, justement, consiste en la lâcheté et la faiblesse des bons. Parce que j'ai pas été lâche, parce que j'ai pas été, moi aussi, faible. De la même façon, font remarquer les pères, Dieu dit à Abraham, l'iniquité des Amoréens n'est pas encore complète. Les mérites ou les démérites des parents sont imputés aux enfants quand les enfants en vérité imitent la malice et les manières de leurs parents. Pas toujours, mais souvent, si les enfants m'ont mal tourné, c'est parce que les parents n'ont pas veillé justement sur l'âme de leurs enfants. Ils ont veillé sur leur corps, mais pas assez veillé sur leurs âmes, et les conséquences sont là, malheureusement. Lorsque la mesure des péchés prédéterminés par Dieu est atteinte, mais on retrouve la même idée chez beaucoup de pères, ils souffrent pour leurs propres péchés et ceux de leurs parents. Je suis un Dieu jaloux des dieux dans l'Ancien Testament, punissant l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération pour ceux qui me haïssent. On récolte ce qu'on a semé, mes bien chers frères. Si j'ai semé la misère, je récolterai dans la misère. Si j'ai semé une fausse liberté sur l'âme de mes enfants, je récolterai les conséquences de cette fausse liberté. Tropologiquement, une citation d'Origène, père de l'Église, « Si en ce jour je n'écoute pas les paroles du prophète, si je méprise ses avertissements, en fait je le lapide, autant qu'il est en moi, je le tue. » Bien que Caïn, qui tua son frère Abel, n'était pas juif par race, par sa malice, en tuant Abel le Juste, il donna l'exemple aux Juifs, enclins à l'imiter en tuant les saints prophètes. Et ils ont fini par tuer notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Caïn, le fratricide, n'était pas le père naturel des Juifs, mais il en est le père symbolique, car ils tuèrent leurs frères, le Christ et les prophètes. Par analogie, le démon est appelé le père des orgueilleux et des mauvais. C'est pour ça qu'il faut beaucoup prier, mes bien chers frères, pour la conversion des Juifs. L'Église enseigne qu'à la fin des temps, il y aura une conversion d'un petit nombre de Juifs. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est difficile à comprendre. Malheureusement, tous ne se convertiront pas, mais certains se convertiront. Il faut prier pour eux. Eux, ils ont pourtant reçu, au début, dans l'Ancien Testament, ils ont reçu les prophéties, ils ont même assisté à la jonction entre l'Ancien et le Nouveau Testament, à tous les miracles de notre Seigneur Jésus-Christ, mais hélas, ils ne l'ont pas reconnu, ils l'ont tué au lieu de le reconnaître comme leur roi. Versets 37 à 39. Jérusalem, Jérusalem. Qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés? Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Comme une poule rassemble ses petits sous ses ailes, tu n'as pas voulu. Voici que votre maison vous sera laissée déserte. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et là, une belle phrase des pères. Je n'ai pas aliéné ces assassins de ma miséricorde et je les aurais pris sous mon aile, non pas une ou deux fois, mais très souvent. si Judas lui-même avait demandé pardon au moment où il a trahi notre Seigneur Jésus-Christ lui aurait pardonné sur le champ. Et il serait devenu martyr avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et on aurait un saint Judas au ciel. Donc le bon Dieu est prêt à exercer sa miséricorde. Ici, il y a cette belle image de la poule qui rassemble ses petits sous ses ailes. Le Christ montre la force de son amour par la comparaison avec la poule. De même que le corps, quand l'âme le quitte, devient d'abord froid, puis pourri et se décompose, ainsi notre temple, notre âme, s'il est abandonné par Dieu, sera d'abord rempli de conflits et d'anarchie, puis viendra la ruine. Le premier temple dont j'ai la charge, mon bienfaire, cher frère, ne l'oublions pas, le premier temple dont j'ai la charge, c'est le temple de mon âme. Est-ce que je m'en occupe du temple de cette âme? Ou est-ce qu'au contraire, je laisse ce temple être rempli de pourriture? Rien ne disperse comme le péché, et rien ne rassemble autour de Dieu que la vertu. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, donc celui qui vit dans le péché ne peut plus se rassembler ses propres forces autour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il va aller chercher une aide apparente auprès de l'ennemi, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le démon. Le Christ se compare lui-même, son amour et sa sollicitude pour sauver les Juifs, à une poule qui rassemble ses petits sous ses ailes. Tous nous avons vu à quel point une maman animal est capable, alors qu'elle n'a pas d'âme, hein, pas d'âme spirituelle, capable de défendre ses petits avec une agressivité incroyable. Une poule aime ses petits plus que tous les autres oiseaux. Elle en manifeste le plus grand soin et protection. Elle appelle et glousse de telle manière, disent les pères, que même si elle ne peut pas les voir, ils puissent reconnaître leur mère par ses appels. Alors que les moineaux, les hirondelles, les cigognes ne peuvent être reconnus comme ayant des petits que lorsqu'ils sont sur leur nid. Le Christ, lui, au contraire, nous a aimés avec un amour suprême. Se faisant homme comme un oiseau domestique d'ici-bas, toujours inquiet pour nous pendant sa vie, enseignant, soupirant, gémissant pour nous sauver, comme la mère poule. Regardez une poule, une mère poule qui s'occupe de ses petits. Au moindre bruit, elle les rassemble sous ses ailes. Mais on devrait être comme ça avec nos enfants. On devrait être comme ça avec notre âme. Les autres oiseaux ne deviennent pas faibles comme la poule avec des petits. Sa voix devient rauque, son corps tout entier apparaît comme négligé, ses ailes s'abaissent vers le sol, ses plumes deviennent éparses, et tout cela est l'effet de son amour maternel. Alors, si une poule, un animal sans âme spirituelle, agit de telle façon, de cette manière, avec ses petits, combien, mes bien chers frères, nous devons agir avec notre âme pour protéger notre âme. Notre âme, c'est l'équivalent du poussin par rapport à la poule. Je suis en charge de mon âme. Est-ce que je m'en occupe? Le Christ, en bas de la page 23, a rassemblé toutes les nations comme une poule ses poussins. Il devient faible pour nous, recevant notre nature humaine, fut crucifié, méprisé, giflé, frappé, cloué à la croix, blessé avec la lance. Par cette infirmité maternelle, il ne perdit pas sa majesté, mais partageant avec nous notre infirmité, il nous a libérés de nos péchés. Et mes bien chers frères, vous voyez dans tous ces passages, bien les choses appliquées à chacun d'entre nous. Est-ce que je remplis mon devoir d'État comme une poule par rapport à ses enfants? Au psaume 91, en haut de la page 24, encore des textes magnifiques des pères que je vous lis là. Il est dit, vous serez à l'abri sous ses plumes. Si une poule protège ses petits sous ses ailes, combien plus en sécurité serons-nous sous les ailes de Dieu, contre les démons et ses anges qui volent autour de nous comme des éperviers cherchant à enlever les jeunes poussins. Saint Pierre compare le démon à un lion dévorant qui tourne autour de nous pour nous dévorer. Cette image est très belle de la poule qui protège ses petits. Un père catholique, une mère catholique, devrait être ainsi à l'égard de ses enfants. Tous les petits, protéger les âmes de mes petits. Protéger les âmes qui m'ont été confiées. Et pour protéger les autres, comment je commence par me protéger moi-même? Si je veux que mes enfants vivent en état de grâce, je ferais bien de commencer par moi-même vivre en état de grâce. Sinon, c'est l'hypocrisie. Et à ce moment, je tombe sous les avertissements de notre Seigneur. Je deviens un scribe et un pharisien hypocrite. Donc, c'est de même que la poule apporte la sécurité, maintient ses petits en sécurité, de même le Christ apporte à son peuple la sécurité. La page 24, c'est une série de belles explications données par les pères de l'Église, qui ont été tous frappés par cette image que notre Seigneur Jésus-Christ utilise. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule qui rassemble ses petits sous ses ailes, tu n'as pas voulu. Voilà ce qu'ils disent. La poule est le symbole de la fécondité, car elle pond un œuf par jour, parfois deux, et un œuf occasionnellement produit deux poussins. Peut-on trouver plus fécond que le Christ ? Le coq et la poule sont aussi des symboles de la vigilance et de la protection. Est-il quelqu'un de plus vigilant que le Christ ? Prenons modèle sur lui. Donc la poule, sur le plan moral, représente l'Église et ses prêtres. Comme une poule avec ses poussins ne cesse de les appeler et glousse assidûment pour les rappeler, de même, les prêtres doivent cesser par leur enseignement et leurs aides de corriger une négligence de ceux qui errent. Est-ce que j'accepte d'être corrigé ? Est-ce que je suis les conseils spirituels qui me sont donnés pour sortir du péché ? Encore une autre image très belle des pères. La poule mère ne se contente pas d'avertir ses propres poussins, mais aime comme les siens propres les petits d'autres oiseaux. Ainsi, l'Église ne se contente pas d'appeler à elle ses propres chrétiens, mais également les juifs et les gentils qui lui sont présentés et les aide par la chaleur de sa foi. Elle les régénère par le baptême, les nourrit par sa prédication, les aide par sa maternelle charité. Quand le Christ a été reçu dans une maison, il n'y a plus de tristesse. Donc posons-nous cette question, depuis que je suis catholique, depuis que je suis un adulte catholique, combien de personnes ai-je ramené vers le bon Dieu ? C'est quand même malheureux, j'ai deux retraites là, qui arrivent au mois de septembre et d'octobre, j'arrive même pas à les remplir alors que j'ai que 5, je peux prendre 5 ou 6 personnes par retraite, j'ai 2 ou 3 personnes pour chacune de ces retraites, j'arrive pas à trouver des gens qui sont intéressés pour tout simplement venir suivre une retraite de 5 jours, et Dieu sait si ces retraites de 5 jours sont efficaces pour sauver les âmes. Oui. Eh bien, posez-nous la question, que dois-je faire justement pour me convaincre de toutes ces choses-là ? Quelqu'un a fait la retraite des exercices Saint-Ignace, on voit très bien, ils ont ces convictions. Le plus important, c'est la conviction, la conversion de mon âme, c'est la première phrase des exercices. L'homme a été créé pour louer, honorer, servir Dieu, sauver son âme. D'autres idées des pères, hein. Les œufs de poule sont utiles pour guérir de nombreux problèmes, tels que les yeux et les rhumatismes. Le Christ est le meilleur médecin des infirmités des âmes. Quand une poule est en péril par un épervier, un chat ou un chien, elle s'enfuit. Mais si elle sent un danger pour ses poussins, elle les rassemble sous ses ailes. Elle les protégera par tous les moyens, se battant avec ses ailes, son bec et tout son corps. Ainsi, le Christ s'est battu pour nous contre le démon et le péché jusqu'à la mort, et même la mort sur la croix. Car lorsque Jérusalem fut abandonnée par Dieu, elle devint la synagogue de Satan, et ainsi la proie des aigles romains sous Titus et Vespasien, qui tuèrent une grande partie des Juifs, vendirent l'autre comme esclave, et dispersèrent les derniers à travers le monde entier. Mais cette destruction de la ville de Jérusalem représente la destruction de mon âme par le démon. Si je vis en état de péché mortel, eh bien, par la force des choses, je vis sans le bon Dieu. Et si je vis sans le bon Dieu, mais comment voulez-vous que le bon Dieu puisse rentrer dans mon âme si j'ai fermé à double tour la porte de mon âme ? Et comme toutes ces choses sont importantes. Encore une fois, je vous conseille beaucoup, mes bien chers frères, à la fin de ces cours, pour ceux qui ont le courage de m'écouter jusqu'au bout, même si je suis obligé parfois de vous dire des choses qui ne sont pas très faciles à dire, relisez le texte de l'Évangile, relisez le polycopié, pour vous en imprégner. Et à ce moment-là, les choses vont devenir plus faciles pour chacun d'entre nous. Voilà, nous avons terminé, Dieu aidant, le chapitre 23 de Saint Matthieu. Il reste encore chapitre 23 et 24 dans ce fichier. Et ensuite, nous pourrons commencer la passion de notre Seigneur avec les deux derniers chapitres, 26 et 27, et puis après la résurrection, chapitre 28. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.